Vous êtes bien sûr underscore à l'écoute de Radio Méga. Bientôt l'été est l'occasion pour nous de surfer sur les ondes musicales des synthés. Un peu de crème solaire et je file à la mer.
Waouh, Lisa, c'est presque l'été. Attends-nous, hein. On n'y est pas encore. Bonjour et Mémumam.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Coucou Cécile, bonjour, coucou Mémumam.
Bonjour amis leaders, bon, c'est vrai que là, elle anticipe un peu, mais effectivement, il y a une histoire de surfer sur des vagues numériques ou bien musicales plutôt, parce que cette fois, Medbel, notre ami belge, nous a fait une chronique qui sera lue par nous trois. Donc voilà, on le remercie beaucoup pour sa participation à nos émissions underscore. Et rappelez-vous que notre podcast est disponible sur AAA.fr. Tout de suite, l'actualité.
Avec...
L'effet fail.
L'effet fail du mois.
Ouais, on a perdu le générique, mais on le retrouvera pour la prochaine fois.
Pardon, Medbel.
Donc, qu'est-ce qu'on a ? Des locataires à New York obtiennent enfin le droit d'utiliser une vraie serrure sur leur porte d'entrée après avoir été bloqués à l'intérieur par une serrure intelligente installée par le propriétaire.
Un nouveau décret autorise le croisement entre des fichiers de police et des dossiers psychiatriques. Vive le secret médical !
Les données personnelles de 275 millions d'Indiens exposées en ligne.
Google aurait donné plus de 150 000 dollars de publicité gratuite à des groupes anti-avortement.
Google encore va restreindre les extensions de blocage publicitaire à la version entreprise payante de Chrome et les autres utilisateurs pourront aller se faire voir.
Chez Firefox du coup.
Une faille dans un traceur GPS chinois revendu en marque blanche.
WhatsApp infecté par un logiciel espion.
D'ailleurs, il faudrait télécharger la nouvelle version, hein, repense-y. Et des nouvelles failles dans les architectures de processeurs après Spectre et Meltdown.
Ah oui, ça n'arrête pas.
Recrudescence d'arnaques à la clé USB piégée dans les boîtes aux lettres dans les Hauts-de-France.
Les passeports et les données de plus de 2 millions de Russes fuités par les sites de leur gouvernement.
Un loueur de voitures qui indique par erreur des voitures comme volées et des clients arrêtés à tort.
Les bracelets électroniques de la police des Pays-Bas qui tombent en panne à cause d'une mise à jour boguée.
Plus de 2 millions de machines avec une faille RDP, donc c'est l'accès à distance de Windows, exposée sur Internet.
Une base de données des informations de millions d'utilisateurs d'Instagram disponibles en ligne, régalez-vous.
L'entreprise Amazon récupère le TLD.Amazon au détriment de l'Amazonie, la région à qui on doit ce nom en fait.
Certains utilisateurs de Facebook n'auraient pas la possibilité de désactiver la reconnaissance faciale, comme c'est bizarre.
Certains, oui. Et Facebook se targue d'avoir censuré 84% des publicités hautement politisées, dont la majorité venant en fait du gouvernement ou d'ONG. Parmi elles, des milliers de messages sponsorisés par les Médecins du Monde, Greenpeace, l'UNICEF, la Banque Mondiale. Ah, c'est étrange.
Ouais, des trucs hautement politisés, quoi.
Facebook revendrait des données aux opérateurs téléphoniques.
Non, c'est pas vrai.
Facebook encore cherche à accéder aux données bancaires de ses utilisateurs, aux US au moins pour l'instant.
Un ordinateur infecté par 6 virus célèbres vendus aux enchères comme une œuvre d'art qui dépasse le million de dollars.
Ah, mais quand j'avais vu passer cette news, j'avais cru que c'était un ordinateur avec 1 million de virus dedans. J'avais tout compris. Ah ouais, si, ça, oui, il s'est pas foulé. Hein. Bon, une faille d'élévation de privilèges dans Windows 10 sans correctif aucun, on dit.
Ça se dit aussi. C'est... Un fabricant de caméras de reconnaissance de plaques minéralogiques piratait les données disponibles en ligne, bien sûr.
Les données des utilisateurs de Snapchat accessibles à certains de ses employés.
La ville de Baltimore, otage d'un ransomware depuis plus de 3 semaines.
50 000 serveurs de Windows infectés par des rootkits à cause de mots de passe faibles dans le MS SQL ou PHP MyAdmin.
Canonical veut mettre le pilote propriétaire Nvidia dans l'ISO de la prochaine version d'Ubuntu et tout le monde n'est pas d'accord.
Un problème de clavier toujours pas résolu chez Apple.
Apple vendrait aussi les données personnelles d'utilisateurs d'iTunes. Une plainte collective a été déposée à San Francisco.
Un robot qui vous frappe en vrai si vous prenez un coup en réalité virtuelle.
Oh, c'est énorme.
On appelle ça un combat de boxe, quoi.
Ouais.
C'est juste énorme. Eh bien, merci pour les fails du mois, parce qu'elles étaient bien croustillantes. J'ai l'impression que la liste s'allonge, n'est-ce pas?
Bah ouais, ouais, à chaque fois je me dis, ouais, je vais pas en mettre autant, puis même jusqu'à la veille de l'enregistrement, on en trouve encore.
Hein. Ça tombe tout le temps.
Ça tombe tout le temps. Une petite pause?
Petite pause, on se retrouve tout de suite après. Très très bon. C'est vrai que Tangerine Dream, le parc donc proposé par Kebu, donc voilà, c'était à une disco party de 2015. Donc si vous avez reconnu, c'était le générique de
Street Hawk, Tonnerre Mécanique, ouais. Quand ça passait sur la 5.
Mais oui, mais oui, c'était à une époque où le carrelage était orange.
Oh là là, les cuisines en merisier. Oh là là.
Et les petits carreaux.
Toto.
Les petits carreaux dans la salle de bain, bien sûr.
Ouais, alors, et donc fait, alors on vous mettra le lien sur la vidéo, et c'est fait uniquement, donc c'est du live, c'est fait uniquement avec des synthés analogiques. Hein.
Ah oui, donc, quand même, c'est assez puissant.
C'est balèze. Hein. Alors, on passe au sujet.
Le sujet du jour qui nous est proposé par Medbel, donc les principaux types de synthèse sonore. Alors qu'est-ce que la synthèse? La synthèse sonore consiste à utiliser l'électronique pour créer une onde sonore de tension électrique à partir de rien, puis à la contrôler et à la modifier. Alors, qu'est-ce qu'un oscillateur? Un oscillateur est une source sonore électronique. C'est le dispositif qui crée l'onde sonore de tension électrique dans un synthétiseur. Les oscillateurs peuvent être analogiques ou numériques. Avant le contrôle numérique, les synthétiseurs analogiques utilisaient un agencement d'interconnexion de signaux de tension, c'est-à-dire des portes contrôlées pour déclencher leurs divers composants. Par exemple, une touche qui est une note jouée sur un clavier enverrait une tension de commande à un oscillateur pour lui indiquer la hauteur à produire, et une tension de commande et une autre tension de commande à une enveloppe qui instruirait à son tour un amplificateur de l'enveloppe de volume de le son tel qu'il est sorti de l'oscillateur. Depuis le début des années 1980, le MIDI est le principal moyen de contrôler et de reproduire un synthétiseur à partir d'un contrôle externe. Et une interconnexion numérique interne a remplacé les signaux de commande. Au début de la synthèse, alors que seuls les systèmes modulaires étaient disponibles, des sons étaient créés en connectant des modules avec des cordons et en ajustant les paramètres de chaque module. Les réglages et les connexions des cordons de raccordement pour un son ont été appelés correcteurs. Le rappel d'un correcteur était un microprocessus laborieux jusqu'à ce que les synthétiseurs de performance commencent à intégrer le contrôle par microprocesseur et que la mémoire ROM soit développée pour stocker une configuration de correctif sous forme numérique. Il n'existe toujours aucun moyen de stocker un patch créé avec un système analogique modulaire. Le concept de base de tout synthèse est que vous travaillez principalement avec quatre formes d'ondes de base. Les superposer et les moduler les uns avec les autres dans certaines fréquences. Ensuite, vous façonnez le son avec des amplificateurs et des enveloppes filtrantes pour atteindre la longévité souhaitée. Vous êtes habitué à identifier des intervalles de musique par leur qualité sonore toujours présente. Vous pouvez faire la même chose avec les formes d'ondes. Pratiquement tous les synthétiseurs sur le marché utilisent les quatre formes de base. De nombreux types de synthèses ont été inventés depuis les premiers synthétiseurs analogiques commerciaux réussis et abordables à la fin des années 1960, voire les synthétiseurs précédemment. Chacun de ceux-ci a trouvé une armée de fans dévoués et offre un large éventail de possibilités sonores. Ces types de synthèses sont responsables du son de la musique d'aujourd'hui. Et si vous voulez suivre, vous devez au moins avoir une compréhension de base de leur sonorité. Ensuite, vous pouvez créer vos propres timbres musicaux et votre son unique. Une table d'ondes est un ensemble de formes d'ondes à cycle unique, ou essentiellement des échantillons audio qui sont lus en boucle pour produire une forme d'onde périodique ou un son ou une sonorité continue. À la vitesse à laquelle ces formes d'ondes sont lues ou la vitesse entre chaque cycle de boucle qui détermine ce que vous et moi appellerions hauteur ou fréquence. Et dans le monde audio numérique, une note MIDI est essentiellement ce qui détermine cette vitesse. En un sens, la synthèse par table d'ondes peut être considérée comme une forme d'échantillonnage très spécifique, mais avec l'intention de transformer et d'animer rapidement entre les différentes formes d'ondes à cycle unique au sein de ces échantillons et au fil du temps. La synthèse sonore fait l'utilisation d'une table avec différentes fréquences commutables jouées dans certains angles, la table d'ondes. Lorsque vous appuyez sur une touche, le son se déplace dans l'ordre dans la table d'ondes sans changer spontanément la forme d'onde, mais en modifiant doucement sa forme en différentes vagues de la table. Cette méthode produit des sons qui peuvent évoluer très rapidement et en douceur. La méthode était destinée à créer des bruits de son numérique. Elle n'est donc pas utilisée très souvent pour la réplication d'instruments, mais constitue un moyen efficace de créer des pads ou des sons sonores, tels que des cloches ou des sons numériques, des effets sonores dans les jeux, etc. En fait, il faut que toutes les ondes sonores que vous êtes susceptible de vouloir produire soient stockées dans des tableaux différents. Ensuite, lorsque vous souhaitez reproduire un certain son, le synthétiseur change l'onde de ce son et reproduit encore et encore.
Pourquoi voudriez-vous générer les sons de cette façon ? Moins de mémoire. Surtout lorsque les synthétiseurs numériques sont apparus, la mémoire était petite et coûteuse. Vous pouviez stocker de nombreuses ondes sonores en pleine résolution sans utiliser trop de mémoire, car vous n'avez pas besoin de stocker une période de... Vous n'avez besoin de stocker qu'une période de l'onde sonore. Moins de puissance de processeur, les ordinateurs rapides étant gros et coûteux, et calculer ce que deux ondes sonores feraient quand elles étaient additionnées, ou la manière dont un filtre affecterait une onde sonore, nécessitait beaucoup de calculs. Avec la synthèse par table d'ondes, toutes les différentes ondes sont précalculées et stockées dans les tableaux. La table d'ondes est l'un des derniers développements en matière de conception sonore et les synthétiseurs modernes utilisant ce type de synthèse l'associent souvent à d'autres types de synthèse tels que le granulaire, FM, soustractive, additive, etc. pour créer des formes d'ondes plus complexes en temps réel. Ce type de synthèse offre la plus large gamme de sons pouvant être créés par rapport à toute autre technique. Si vous souhaitez découvrir tout ce que les synthétiseurs peuvent donner, ils vous satisferont à peu près tous. En effet, les besoins en matière de conception sonore, fonctionnalités les plus populaires, y sont intégrés. La méthode soustractive est la méthode la plus répandue qui a donné naissance au concept de synthèse sonore. Elle est également l'un des types de synthèse les plus populaires de tous, peut-être en raison de sa simplicité inhérente et de son application. Ce type de synthèse est une chaîne de signal très simple d'un oscillateur ou la combinaison de plusieurs oscillateurs traversant un filtre, une courbe d'égalisation, qui est ensuite envoyée à un amplificateur pour la mise en forme de gain et d'ADSR, donc Attack Decay Sustain Release, donc ça veut dire attaque, chute, entretien, extinction, pour contrôler la réponse de l'enveloppe. Les harmoniques présentes dans les sons des oscillateurs peuvent être transformées en structures harmoniques qui reflètent celles des instruments réels. Cette méthode est très facile à réaliser dans les domaines analogiques et numériques et peut être utilisée pour créer de nombreux instruments, éventuellement infinis, effets et sons. Le synthétiseur analogique soustractif a été conçu à cette fin. Il constituait une alternative à la location de musiciens pour jouer sur des enregistrements. Cependant, il s'est rapidement transformé en son propre instrument, créant différents sons jamais produits par un instrument acoustique. La synthèse soustractive est le plus étroitement associée au synthétiseur analogique des années 60 et 70, dans lequel les harmoniques de forme d'onde simple, telles que celles mentionnées précédemment, sont atténuées avec un filtre passe-bas résonnant commandé en tension. À bien des égards, il s'agit d'un processus similaire à celui de la voix. Les notes vocales dont sont l'oscillateur et la bouche agit comme un filtre réduisant les harmoniques entendues en fonction de l'ampleur de son ouverture. Ce type de synthèse a un son très vintage et très évidemment synthétique, ce qui est une grande partie de son attrait. Pensez à Kraftwerk, les radios et à peu près tous les titres de musique de dance, les exemples ici.
Pour donner
une qualité du son.
Là, on n'a pas encore les extraits.
On n'a pas eu les extraits. La synthèse soustractive est un excellent moyen de comprendre le fonctionnement de la synthèse. La synthèse soustractive de base utilise les modifications de forme d'onde, le filtrage et les ajustements d'enveloppe. L'un des principaux contrôles d'un filtre est la fréquence de coupure, qui définit le point où le filtre commence à bloquer les fréquences. Il existe plusieurs types de filtres pouvant bloquer les fréquences plus basses ou plus hautes. Le filtre passe-bas, qui supprime les fréquences supérieures à la fréquence de coupure, qui rend des sons plus sombres ou plus troubles.
Le filtre passe-haut supprime les fréquences inférieures à la fréquence de coupure et rend les sons plus clairs. Il manque des mots.
Ils sont additionnés.
La synthèse additive est une technique de synthèse sonore qui crée un timbre en ajoutant des ondes sinusoïdales. Ce type de synthèse cherche à obtenir le même résultat que la synthèse soustractive, mais en abordant la méthode à partir d'une philosophie constructive plutôt que de simplement tailler des harmoniques. Les sons entendus au quotidien ne sont pas caractérisés par une seule fréquence. Au lieu de cela, ils constituent une somme de fréquences sinusoïdales pures, chacune à une amplitude différente. Lorsque les humains entendent ces fréquences simultanément, nous pouvons reconnaître le son. Cela vaut tant pour les sons non musicaux, par exemple les éclaboussures d'eau, le bruissement des feuilles, que les sons musicaux, par exemple une note, un piano, un tweet d'oiseau. Cet ensemble de paramètres, fréquences, leurs amplitudes relatives et la manière dont les amplitudes relatives changent avec le temps sont encapsulés par le timbre du son. Plutôt que de présenter un mur d'harmonique et d'établir la structure harmonique souhaitée, soustractive, dans la synthèse additive, de multiples ondes sinusoïdales de niveaux et fréquences variées sont combinées pour créer la structure harmonique souhaitée. Autrement dit, au lieu de commencer avec tout ce dont vous avez besoin et de jeter ce dont vous n'avez pas besoin, vous partez de rien et construisez des structures harmoniques à partir de rien. Le processus de resynthétisation est étroitement lié à la synthèse additive. La resynthétisation consiste essentiellement à analyser la structure harmonique d'un son échantillonné et à tenter de la recréer. La synthèse additive est essentiellement une resynthétisation à l'exclusion du fait que la resynthétisation est la recréation d'un son spécifique existant, non d'un son d'instrument général. Compte tenu de ce lien, la synthèse additive est assez souvent utilisée dans les processus de resynthétisation. La synthèse FM modulation de fréquence a été l'une des premières méthodes de synthèse numérique. Il est apparu pour la première fois dans la légendaire Yamaha DX7.
Oui, là, les gens qui connaissent les synthés, effectivement, le DX7 est vraiment une référence.
La synthèse FM fonctionne de la manière suivante. Une forme d'onde simple appelée porteuse, sinus, si, carré, triangle, non, pas PlayStation, la manette, est modulée par une autre onde appelée modulateur. Le résultat est une forme d'onde beaucoup plus complexe. Ce type était le premier type de synthèse numérique à succès commercial et abordable. Tout comme la synthèse soustractive, FM utilise également quatre formes d'ondes de base, sinus, carré, triangle ou dancy, ainsi que leurs variations pour obtenir le résultat souhaité. Ces ondes sont connues collectivement comme opérateurs et un synthétiseur FM peut avoir de nombreux opérateurs pour adapter son son à des ondes de plus en plus complexes. Les principaux avantages de la modulation de fréquence sont que des vagues d'une complexité sans précédent peuvent être produites. En particulier, des sons avec des qualités de cloche pourraient être produits avec un niveau d'authenticité jamais entendu auparavant. Il est similaire à la synthèse additive en ce qu'il utilise 6 oscillateurs, 6 près, créant des ondes sinusoïdales, chacun d'entre eux pouvant avoir sa fréquence, son amplitude et son enveloppe, volume en fonction du temps, défini par l'utilisateur. En FM, les oscillateurs sont appelés opérateurs. Elles se distinguent de la synthèse additive par le fait que plutôt que de combiner les ondes, la sortie d'un opérateur est envoyée à moduler au suivant, le second module, et ensuite un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une forme d'onde complexe soit produite par l'oscillateur final de la chaîne, appelé opérateur de sortie. Donc en fait, rapport à l'additif, la FM, elle va surtout permettre de gagner de la place. Parce qu'en additif, si on se retrouve avec 50 fréquences additionnées, ben, il faut 50 informations. Alors qu'avec la FM, comme c'est une onde qui en modifie une autre, on va plutôt être dans le carré.
Mais oui.
On va être dans le carré. Et donc, 2, 4, 6, 8, hop, et c'est parti, voire plus. Donc, effectivement, ça permet de gagner de la place. Trouvez votre son. Avec ces 4 types de synthèse, vous pouvez créer presque tous les sons que vous voulez. À l'ère de l'informatique moderne, la disponibilité des VST, Virtual Synthesizer, sur le marché offre une multitude de choix parmi nos recherches constantes pour découvrir de nouveaux sons dans lesquels nous vivons. La musique contemporaine a toujours soif de nouveaux timbres. Les plugins de synthé vont être vos meilleurs amis ici. Avec une telle abondance de possibilités, comment choisir ? De nombreux artistes ont choisi de commencer avec une palette plus limitée et de créer lentement un son unique. Une fois que vous avez entraîné vos oreilles à reconnaître les différents types de synthèses et la façon dont ils sont produits, vous pouvez également développer votre propre son professionnel. Bon nombre de ces méthodes de synthèse sont combinées ou superposées au sein de programmes uniques pour permettre la création de synthétiseurs uniques. En comprenant ces méthodes, en les expérimentant et en les combinant, vous finirez par devenir la force créatrice de la synthèse sonore.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, ça se développe par rapport à la recherche sonore en elle-même, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à chercher un nouveau son, quoi.
Oui, alors après, effectivement, on mélange tout. Alors, pour ceux qui se foulent pas trop, qu'on connaît, on sample directement, on sample une guitare et puis on inverse le son. Mais il y en a qui se sont fait attraper comme ça.
Ah ouais.
Ouais, il y en a qui se sont fait. C'était les Inconnus qui avaient fait ça. Ils avaient pris un son de jazzy, ils l'avaient inversé et c'était pour, je crois, c'était Nous sommes les frères qui rappent tout.
Oh, ils se sont fait attraper.
Ah non, ou c'est Auteuil Neuilly-Passy, ou c'est dans Auteuil Neuilly-Passy, c'est un des deux. Et ils se sont fait attraper, il y a eu une amende salée. Alors on n'en sait pas plus sur le montant de l'amende, mais ils se sont fait choper à l'époque. Voilà, alors, voici quelques connaissances à garder en tête lorsque vous démarrez votre processus de production et que vous ne pouvez pas choisir entre ces types. Pour faire un son de cloche, vous devez utiliser la synthèse additive ou FM. Pour créer un son classique, simple et synthétique, vous devez utiliser la synthèse soustractive. Pour faire un son qui se modifie au fil du temps, vous devez utiliser la table d'ondes. Pour faire un son métallique synthétique, vous devez choisir FM. Et pour créer un son de type chaîne réaliste, vous devez utiliser la synthèse additive. Tous les types différents ont leurs forces et leurs faiblesses. Nous vous recommandons donc de vous familiariser avec chaque type de synthèse et d'avoir une idée des résultats que vous obtiendrez.
Ah ben voilà, au moins c'est clair. Hein. Ouais, Matt Bell, là, ce niveau-là, je pense que...
Alors, je vais peut-être... On va essayer de passer les...
Oh, pardon.
Les extraits sonores, oui.
Les extraits,
oui.
Si je me... Alors, si je me gourre pas, il faut mettre ça, donc ça... C'était censé être le passe-bas.
Donc ça, c'est le filtre passe-bas. Donc il supprime les fréquences supérieures et à la fréquence de coupure.
Et puis alors le passe-haut.
Il ressemble au passe-bas, celui-là.
Non, parce que si tu écoutes bien, t'as...
Ah oui.
T'as plus les basses. En fait, il a
ah oui, dans, là,
le,
oui,
dans le voilà,
il
dans l'échantillon, en fait,
il
augmente le gain du filtre progressivement. Donc on part de, tous les deux avec le même son.
Effectivement.
Mais après, il y en a un qui, où on garde plus que le grave et l'autre on garde plus que les aigus. Voilà.
Mais bien sûr. Eh bien, merci amis auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette chronique technique.
Merci Matt Bell.
Merci Matt Bell.
À noter une série sur Arte aussi, Soundbreaking, une série de 6 épisodes sur justement toute l'historique des synthétiseurs, de l'enregistrement audio et tout, avec tout plein de trucs, les multipistes et tout, c'est vachement intéressant aussi.
Donc à voir aussi, vous retrouverez les liens sur AAA.fr.
AAA.fr.
Nous passons à l'agenda.
Oui, rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée, lors des rediffusions le samedi.
Alors, nous avons le repère café au Val pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour apprendre à réparer soi-même et comprendre comment fonctionnent nos appareils. Donc, c'est le mercredi 19 juin de 18h à 20h30 au Valence Atelier Libre 13 bis rue Montplaisir à Valence.
Discussion internet ou le retour à la bougie. Donc, c'est une soirée avec un repas partagé à partir de 19h et puis une discussion, une critique radicale du numérique est-elle encore possible ? Rencontre et débat avec Hervé Krief, auteur du livre Internet ou le retour à la bougie aux éditions Quartz. Donc, ça se trouve, c'est sur inscription jeudi 20 juin à 19h au Valence Atelier Libre, toujours 13 bis rue Montplaisir.
Cyberday, emparez-vous des enjeux de cybersécurité. Grenoble, INP et César vous proposent une nouvelle journée sur la thématique de la cybersécurité. Donc avec l'arrivée massive des objets connectés, des outils tels que le cloud computing dans la vie quotidienne, on se retrouve face à des problèmes de sécurité.
Bien sûr.
Parce que tous ces outils sont des outils ouverts et accessibles à distance. Donc, à travers conférences et ateliers, les différents intervenants répondront aux questions que vous vous posez sur la vulnérabilité des systèmes d'information et les nouvelles menaces liées aux usines 4.0 et à l'IoT.
Ouh, va falloir y aller avec la grille de Bullshit Bingo, mais...
Les enjeux de la cybersécurité industrielle ou encore les champs de recherche et d'application du machine learning.
Ça y est, j'ai tout couché.
Ouais.
Donc c'est sur inscription.
Voilà. La grille de Bullshit Bingo.
Ouais, tu connais pas ?
Le 20 juin 2019 à Les Césars, 50 rue Barthélémy de Lafema. Valence.
À Valence. Ouais.
Super. Et la VIP, le 20e anniversaire. Donc ça se passe du 28 au 30 juin à Toissé.
Voilà.
Alors, astrologique, nous allons frotter cette boule de cristal.
Alors.
Si Jasmine, ça fédère pas bien, ça m'a fait l'air d'être très bien.
Macounet, faites vos jobs, Steve. Adorez-moi, achetez une nouvelle machine.
Demo Maker, il semblait pâle, plutôt sécam en fait. Pourquoi tant de haine, TSC ?
Codeur, fais voir ton appli Java.
Musicien, ça y est, t'as fait ta mise en pli ?
Microsoft, installer un serveur sous Windows, c'est pas dur, tu fais clic, clic, clic et c'est fait. D'où l'expression Microsoft et toute sa clique.
Clic, clic.
Clic, clic, c'est ce qu'on m'a dit aussi sur le Minitel.
Il y est.
Waouh, eh bien merci à Amélie Outsider de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve pour peut-être l'avant-dernière où ouais, on n'est pas loin de la fin de la saison quand même, hein, une belle saison.
Ah bah on va prendre des vacances, hein.
Eh oui, on va prendre des vacances, on va peut-être aller au soleil.
On est au soleil à Valence.
Mais oui, c'est vrai.
Bon, on est enfermé dans le studio là, mais...
Néanmoins, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Une surprise ?
On verra bien.
Peut-être qu'on va faire un tour sur un bilan RGPD-1. Voilà, à voir, à voir. On verra bien. Allez, à bientôt. Bye bye.
Ciao, ciao.